Merci. Je vous propose que nous lisions quelques versets au début du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2 et au verset 42. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Ils persévéraient dans la doctrine et la communion des apôtres, dans la fraction du pain et les prières. Toute âme avait de la crainte et beaucoup de prodiges et de miracles se faisaient par les apôtres. Tous les croyants étaient en un même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs possessions et leurs biens et les distribuaient à tous, selon les besoins de chacun. Jour après jour, ils persévéraient d'un commun accord dans le temple et, rompant le pain dans leur maison, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait tous les jours les sauvés à l'assemblée. Au cours de ces deux soirées, donc ce soir et demain soir, nous proposons de regarder quelques aspects de ce sujet de l'Église. On m'a suggéré ce sujet de l'Église en me disant qu'il était finalement peu souvent traité. Et effectivement, c'est un sujet peut-être un peu délicat parce que, comment dire, on a un petit peu mal à l'Église quelque part, globalement. Circonstances que nous pouvons vivre, tant sur peut-être le plan d'un rassemblement local ou dans les relations entre les rassemblements que nous connaissons, plus généralement, la situation de l'Église dans son ensemble fait que c'est un sujet que nous aimons à la fois, mais qui nous touche et qui nous fait mal. Et c'est vrai que... Merci bien. Et c'est vrai que on est frappé, par exemple, de voir que certains éditeurs évangéliques sortent des livres disant intitulés à ceux qui ont été blessés dans leur Église. Comment c'est possible que l'Église ne soit pas un facteur positif, mais soit quelque chose au contraire qui nous fasse mal, sur lequel on souffre? On a mal à l'Église. Ah, peut-être, effectivement. Et est-ce que, comme le disait quelqu'un aussi, peut-être on est chrétien non pas à cause de l'Église, mais malgré l'Église? Est-ce possible cela aussi? Alors qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va laisser de côté en se disant, oh, de toute façon, ça, c'est fini, ce qui importe, c'est la piété personnelle, et puis les questions collectives, on va les laisser de côté, parce qu'on a trop mal à ça. Alors, ce que j'avais à cœur de vous présenter aujourd'hui et demain en relation avec ce sujet, c'était les leçons du début et les leçons de la fin, pour aujourd'hui, pour notre vie pratique d'Église aujourd'hui. Les leçons du début, c'est ce que nous pensons voir ce soir, avec cette fin du deuxième chapitre du livre des Actes. On essaiera de voir un petit peu dans quel contexte on se situe. Et puis les leçons de la fin, et demain nous regarderons, Dieu voulant, quelques traits de la sainte cité, la fin, tout à fait à la fin du livre. Là on est au début de la période chrétienne, on sera à la fin de la révélation en Apocalypse 21 et 22. Alors, ce qui est frappant quand on lit ces versets, c'est que ce sont des versets qui sont pourtant un peu surprenants, parce que parler de l'Église, eh bien effectivement, il semble bien que ces premiers chrétiens réalisaient l'Église. Je crois que c'est William Kelly qui, dans son commentaire, n'est pas tout à fait sûr que le terme assemblée au verset 47 soit tout à fait dans les meilleurs manuscrits et donc soit tout à fait autorisé. Mais enfin, globalement, on voit la constitution de l'Église le jour de la Pentecôte, au début de ce chapitre 2 du livre des Actes, et puis le fonctionnement immédiat de ce petit groupe de chrétiens, petit, pas tant que ça, puisqu'il y avait eu déjà au moins 3000 convertis lors de cette première journée, plus les 120 qui se trouvaient dans le même lieu. Eh bien, donc ce premier groupe de ceux qui ont pu former ce noyau initial de l'Église est là, dans ce livre des Actes, et on le voit qui vit spontanément. Et c'est frappant, parce que la doctrine de l'Église ne nous est pas donnée à ce moment-là. Le Seigneur, qu'avait-il dit de l'Église? Quelques mots sur, après la déclaration faite par Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon assemblée. Quelques mots simplement. Ensuite, quelques mots au chapitre 18, si ton frère a péché contre toi, eh bien, l'assemblée, quand deux ou trois sont assemblés en mon nom, je ne sais pas s'il y a toujours ce verset à l'entrée, il y était autrefois, je suis là au milieu d'eux. Quelques éléments, mais très peu d'enseignements finalement dans les évangiles sur l'assemblée. Et est-ce que pour autant le Seigneur a utilisé le moment après sa résurrection pour leur dire, ben voilà, vous allez bientôt avoir l'Esprit, vous allez bientôt être enseigné concernant la, vous allez bientôt être constitué en tant qu'assemblée, je vais vous enseigner ce qu'est l'assemblée. Non, on le voit au chapitre 1er, il parle des choses qui regardent le royaume de Dieu. Alors, le royaume de Dieu n'est pas sans lien avec l'assemblée, naturellement, mais enfin, ce n'était pas le sujet direct de l'enseignement du Seigneur Jésus à ce moment-là. Et puis, les 120 se retrouvent et on voit qu'ils persévèrent dans la prière, on ne les voit pas avoir des révélations spéciales sur ce sujet. Et le jour de la Pentecôte arrive, le Saint-Esprit descend et baptise ces premiers chrétiens en un seul corps, 1 Corinthiens 12, verset 13. Et puis, verset 42, on les voit, ils fonctionnent spontanément, tout de suite. La pratique a donc précédé la théorie. La pratique a précédé la théorie. Et ça, c'est un point important. Parce que nous, parfois, permettez-moi de dire cela, parfois nous on dit, ah, sur le sujet de l'assemblée, on a une bonne théorie. Dieu veuille que ce soit le cas. Mais ce que le Seigneur dit, si vous savez ces choses, vous êtes bien heureux si vous les faites. Et on dit, ah ben oui, effectivement, ceux-là, ils ont une pratique qui est peut-être meilleure que la nôtre, mais la théorie, ça ne va pas du tout. Que nous montre la parole de Dieu, la pratique a précédé la théorie. Est-ce à dire que la théorie n'a aucune importance? Certainement pas, et je retoucherai ce sujet. Mais juste pour insister sur ce point. Et vous savez, c'est un parallèle avec l'enfance. Un enfant, on le voit bien, quand nos enfants apprennent à parler, ils apprennent à parler spontanément, comme cela. Et puis ce n'est qu'après qu'ils connaîtront la théorie du langage, de la grammaire, la syntaxe, les différentes catégories de vocabulaire. Ce n'est pas tout de suite. Il leur faut du temps. C'est pareil pour la marche aussi. Ils marchent, ils courent, et puis après, ils apprendront en cours de biologie comment se décompose le mouvement, comment jouent les articulations, les différents muscles, etc. Mais il n'est pas besoin de connaître tout cela pour voir un petit enfant qui court. Donc, la pratique précède la théorie pour cela. Et donc, on comprend que ces premiers chrétiens, et qui se sont mis à marcher tout naturellement, et bien après la théorie est venue et on a, fort heureusement pour nous, tout ce corpus concernant l'assemblée qui a été donné essentiellement par le ministère de l'apôtre Paul dans les épîtres. On pense en particulier, je pense à trois épîtres en particulier, l'épître aux Éphésiens, la première épître aux Corinthiens, la première épître à Timothée, mais le sujet est touché de façon plus ou moins directe dans à peu près toutes ces lettres. Alors, un autre point aussi, c'est que ce que nous allons voir ici, dans ce début du livre des Actes, appartient à une période un peu spéciale. Vous avez sans doute vu la mention au verset 46 du temple. Du temple. Donc on est dans une période transitoire. Et de ce point de vue-là, le livre des Actes ne nous donne pas les fondements de notre rassemblement aujourd'hui de façon ordonnée, si je puis dire. On voit des chrétiens, on voit un exemple pratique, mais dans un contexte particulier. Et ça, il est important de s'en souvenir. Parce que si on voulait vraiment, parfois on entend des gens, mais il faut revenir à l'église primitive et faire exactement comme eux. Ben non, on ne peut pas. Je ne peux pas aller d'un commun accord dans le temple. Il y a la mosquée d'Omar à la place. Et puis, il ne fait pas bon s'y promener ces jours-ci. Donc, on ne peut pas. Donc vous voyez, ça appartient à une période qui, du point de vue des dispensations, c'est-à-dire des façons dont Dieu a agi envers les croyants au cours de l'histoire, une période transitoire pendant laquelle les chrétiens étaient déjà sur le terrain chrétien, mais avaient encore quelques relents, quelques attaches au système juif, et alors le livre des Actes s'inscrit dans cette période-là, et il s'inscrit aussi un certain nombre de considérations faites dans les épîtres. On pense en particulier à l'épître aux Hébreux, où il est question dans ce verset 13 du chapitre 8 de ce qui est ancien et qui vieillit et qui est prêt de disparaître. Eh bien, ils étaient encore attachés à ce qui était ancien et qui était prêt de disparaître. Donc, de ce point de vue-là, on comprend que ce que nous est dit de l'Église dans le livre des Actes, dans différents passages, n'est pas forcément à prendre au pied de la lettre partout et qu'il faut tenir compte de cette période transitoire qu'on a appelée l'Église judéo-chrétienne, donc ces chrétiens qui étaient tous d'origine juive et qui ont petit à petit laissé de côté ce qui, comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux l'a dit, était en train de vieillir. Alors pour autant, le livre des Actes est un livre extrêmement intéressant. C'est un livre qu'on lit à nos enfants, un livre d'histoire. Ma fille a découvert il y a quelques mois l'histoire de Paul, mais ça lui plaît beaucoup. C'est une histoire vivante de personnes qui nous montrent un fonctionnement concret, de chrétiens qui étaient engagés pour leur Seigneur dans la puissance du Saint-Esprit. Et donc on comprend que on aura beaucoup d'enseignements à tirer de ce livre des Actes, beaucoup, beaucoup. Et même si parfois nous serons obligés de transposer un petit peu, eu égard au changement d'époque, eu égard aussi à l'évolution de la situation globale de l'Église, eh bien on aura beaucoup à en retirer. Alors le livre des Actes est construit de façon très intéressante, je ne vais pas rentrer dans tout le plan, mais juste pour signaler que il y a en fait, de temps à autre, comment dire, l'auteur, l'évangéliste Luc, dont c'est le deuxième volume, de temps à autre, l'évangéliste s'arrête et fait une considération générale sur la situation. Et puis, dans le paragraphe d'après, il va considérer un épisode particulier. On en a un très bon exemple ici. Les versets 42 à 47 donnent un panorama général des premières semaines, premiers mois, premières années. On ne sait pas exactement, il n'y a pas d'indication chronologique très précise, sans doute à dessein. Donc du début de l'Église dans le livre des Actes avec des généralités. Et puis, cas particulier, chapitre 3, verset 1, Pierre et Jean qui montent au temple et puis qui guérissent un infirme, avec tout un développement après. Et puis, on passe au chapitre 4, verset 32, de nouveau, on a un développement un peu général sur la situation de l'Église. Et puis, si on tourne, après il y a l'épisode d'Ananias et Saphira qui est de nouveau un cas particulier, puis de nouveau, on revient au général, au chapitre 5, verset 12. Beaucoup de miracles se faisaient par les mains des apôtres, etc. Et puis, de nouveau, un cas particulier, Pierre et les apôtres qui sont en prison, etc. Et puis, au chapitre 6, verset 7, de nouveau, on a une considération générale, etc. Je ne vais pas allonger, le propos n'est pas de regarder le livre des Actes, mais juste je le soumets à votre lecture. C'est intéressant de voir ce livre des Actes avec ces espèces de points, et j'en cite un particulièrement intéressant qui est au chapitre 9 et au verset 31, parce que nous y reviendrons peut-être, entre deux récits, le récit de la guérison d'Aîné, et puis juste avant le récit de l'arrivée de Paul conduit par Barnabas à Jérusalem, eh bien il y a un petit verset, mais fort intéressant, acte 9, 31, les assemblées donc par toute la Judée et la Galilée et la Samarie étaient en paix, étant édifiées et marchant dans la crainte du Seigneur, et elles croissaient par la consolation du Saint-Esprit. Voilà, une considération générale comme cela qui parsème ce livre des Actes et qui sont donc très intéressantes parce qu'elles nous permettent de voir un petit peu comment cette œuvre de Dieu s'est évoluée et ces considérations générales nous permettent de voir un petit peu un panorama à un moment donné. Ces quelques mots d'introduction étant terminés, nous en arrivons à l'étude peut-être un peu plus serrée du texte qui est devant nous, et nous trouvons au verset 42 que ceux qui étaient là persévéraient dans la doctrine, la communion et la communion des apôtres, dans la fraction du pain et les prières. Premier point que j'aimerais souligner, c'est que la première chose qui nous est dite, c'est qu'ils persévéraient dans la doctrine. Ah, la doctrine, ça nous montre l'importance de l'enseignement. C'est le premier point que j'aimerais mettre en évidence. Alors ça aussi, ça n'a pas bonne presse. Ça n'a pas bonne presse. Je ne sais pas pourquoi la doctrine, on dit, on veut du pratique, vous savez. Si vous venez, il faut donner du pratique. La doctrine, on s'en méfie. Mais pourquoi on s'en méfie de la doctrine? Pourquoi on s'en méfie? Est-ce qu'on veut être des invertébrés ou des vertébrés comme chrétiens? Ce qui donne, qui charpente notre être intérieur, c'est la doctrine. Alors que, pourquoi il y a cette désaffection, cette réticence, cette suspicion vis-à-vis de la doctrine? La doctrine, on n'aime pas trop ça. Je lisais récemment une lettre d'une sœur qui disait à propos de... Elle écrivait à un frère qui avait fait une revue de livres bibliques, et il avait fait la revue d'un commentaire biblique sur le deuxième livre des rois, et lui disait, de toute façon, moi j'ai beaucoup de livres à lire, je n'ai pas le temps de lire des commentaires bibliques. Eh bien, c'est triste comme état d'esprit. Peut-être qu'ici, il y en a qui n'ont pas le temps de lire des commentaires bibliques. Mais c'est pourtant ça qui nous structure. C'est de lire la parole de Dieu telle qu'elle nous a été donnée. Alors, on est très attiré par les thèmes. J'aime beaucoup les thèmes aussi. Mais on ne verra bien un thème que si déjà on a bien la charpente. Et cette charpente-là, elle vient quand on lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, sans négliger Ézéchiel, Nahum et Apocalypse 6, versets chapitre 6 à 18, même si ce sont des portions difficiles, c'est certain. Eh bien, on peut lire, et puis là, la deuxième lecture, ça s'éclairera un petit peu plus, etc. Alors c'est important la doctrine. Pourquoi il y a cette désaffection? Peut-être parce qu'effectivement, on a, et je crois qu'il faut le reconnaître honnêtement, on a peut-être insisté sur la doctrine et puis on ne l'a pas mise en pratique. On a reçu en cadeau, par grâce, de façon méritée, un corpus doctrinal qui était volumineux, et puis notre pratique à côté, elle était bien maigre. Mais, passez-moi l'expression, ce n'est pas la raison pour jeter le bébé avec l'eau du bain. Eh bien, il faut s'attacher à la doctrine, il persévérer dans la doctrine. Et donc, c'est important d'avoir, de temps à autre, un enseignement de doctrine, sur la doctrine de la parole de Dieu. Et j'aimerais citer un verset dans, je crois que c'est Romains 6, verset 17, qui montre bien comment la doctrine... ce verset est très beau parce que c'est la doctrine bien comprise, vous voyez. « Grâce à Dieu de ce que vous étiez esclaves du péché, mais de ce que ensuite vous avez obéi de cœur à la forme de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. » Voilà. C'est ça la vraie doctrine. Vraie doctrine, c'est être instruit dans quelque chose et le recevoir dans son cœur et y obéir. C'est tout ça la doctrine. Effectivement, s'il n'y a qu'un aspect, si elle est présentée sans cœur, si elle est reçue sans cœur, on comprend que ce soit bancal. Si elle est juste écoutée, si elle n'est pas obéie, on comprend aussi que ce soit bancal. Mais ce que faisaient ces premiers chrétiens, et on le verra dans la suite, parce qu'en fait, il y a ce premier terme, il y a toute la suite qui montrait que cette doctrine-là, ils l'avaient saisie. Alors, de quelle doctrine il s'agit? Il s'agit de la doctrine des apôtres. Ce n'est pas la doctrine concernant l'assemblée, puisque Paul n'avait pas encore été suscité, et Paul dit très clairement que c'est à lui que Dieu a confié la révélation du mystère caché dès les origines en Dieu, Romains 16, verset 25 et suivant. Donc, on voit bien que ce n'était pas là-dessus, c'était la doctrine des apôtres. Qu'est-ce qu'ils avaient entendu, les apôtres? Eh bien, les apôtres, ils avaient entendu l'Ancien Testament, ils étaient nourris là-dedans, même plus tard, on va s'étonner de ce que ces gens illettrés du commun pouvaient citer les prophètes et puis les appliquer comme il faut. Et Pierre le fait sous la conduite du Saint-Esprit avec une puissance dans ses versets qui est magnifique. Donc, c'était l'Ancien Testament, et puis c'était tout l'enseignement du Seigneur Jésus. Tout l'enseignement du Seigneur Jésus. Et il y a de la doctrine dans les évangiles aussi. Et il vaut la peine de la chercher. Peut-être pas la doctrine sur l'Église, puisque le Seigneur ne touche ce sujet qu'à deux reprises, nous l'avons déjà dit, et sans insister là-dessus. Mais il y a la doctrine du royaume des cieux. Il y a la doctrine sur beaucoup de sujets. Et ça vaut la peine de lire aussi cela. Nous aimons les récits des évangiles, les miracles, mais il y a aussi ces longs chapitres. Je pense par exemple à des chapitres du milieu de l'évangile selon Jean, chapitres 6, 7, 8. Là, vous avez la doctrine, et je suis persuadé que c'était là-dedans que ces premiers chrétiens persévéraient. Et alors, on comprend qu'on n'a pas du tout, et c'est vrai aussi pour les autres évangiles, on n'a pas du tout à rejeter, sous prétexte que les évangiles, c'était une période transitoire, cette doctrine qui avait été amenée par le Seigneur Jésus et dans laquelle ces premiers chrétiens persévéraient. Et ce qui est frappant aussi, si on veut voir dans quelle doctrine ils persévéraient, c'est de lire les discours du livre des Actes. Le discours de Pierre en acte 2, en acte 3, acte 4, acte 5, etc. Et on voit combien Pierre avait à cœur des choses. Et c'était quoi sa doctrine? Qu'est-ce qu'ils annonçaient, ses premiers disciples? Premièrement, que Jésus-Christ était venu comme accomplissement de l'Ancien Testament. Deuxièmement, que Jésus-Christ avait été mis à mort. Et troisièmement, que Dieu l'avait glorifié. Et quatrièmement, que le Saint-Esprit était venu conformément à ce qui avait été dit. Donc, il y a beaucoup d'autres choses, mais ces quatre points qui, personnellement, me sont apparus en relisant ces chapitres, ces quatre points-là. Et c'est des points importants aujourd'hui, que Jésus-Christ est venu, Dieu, Jésus-Christ, Fils de Dieu, venu en chair. Ce n'est pas reconnu aujourd'hui. Quant à la résurrection de Jésus-Christ, pensez donc. Alors là, on se moque encore plus aujourd'hui qu'on se moquait autrefois à Athènes quand Paul a commencé à parler de la résurrection d'entre les morts. Alors ça, c'est n'importe quoi maintenant. On sait qu'il y a plus de gens qui croient malheureusement en France à la réincarnation qu'à la résurrection. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Donc, et pourtant, c'est un fait. Et même des, y a un juriste, une fois, qui a été convaincu de la résurrection de Jésus-Christ en étudiant juste cela, comme s'il avait eu à établir, à partir d'un dossier, des éléments néo-testamentaires, un dossier, il a dit, ben, j'aurais eu ce dossier-là de façon neutre, j'établissais que, effectivement, cette résurrection est un fait historique avéré. Et donc, là-dessus, nous avons à être fermes et à annoncer cela, et à persévérer dans cette doctrine. Alors le deuxième point, c'est qu'il est question de la doctrine et la communion des apôtres, de la fraction du pain et des prières. Et alors, ça nous fait penser à, ça nous fait penser aux réunions. Vous ne faites pas penser aux réunions ? Réunion de prière, fraction du pain, c'est le culte. La doctrine, on peut penser à la communion, une réunion d'enseignement. Effectivement, ça nous fait penser aux réunions. Ah, les réunions. Ah oui. Alors ça, les réunions, c'est un sujet qui intéresse. Je me rappelle une fois, c'était une réunion d'études régionales, oh, ça ronronnait gentiment, si, sans vouloir être méchant, et puis d'un seul coup, ce n'était pas du tout le sujet, mais il y a un frère qui parle des réunions d'assemblée. Oh, alors là, tout le monde s'est réveillé, et puis chacun avait son mot à dire, à ajouter, avait son idée, etc., pour la façon dont les réunions devaient se dérouler, se trouver, etc. Alors là, on a des idées partout. Sur les réunions, ça, c'est un sujet sur les modalités pratiques. Mais ce qui frappe quand on lit le Nouveau Testament, c'est le peu de choses qui nous est dit du déroulement pratique des réunions. Est-ce qu'il commençait par un cantique ? On a commencé par un cantique, parce que ça nous permet de faire la transition avec le petit trajet en voiture qu'on a eu à faire. C'est souvent heureux d'avoir un cantique en introduction, bien qu'il ne faille pas en faire une règle du tout. Mais est-ce qu'il commençait par un cantique ? Oh, certainement, ils avaient des cantiques, ça on le sait, ça nous est dit explicitement. Mais quand, comment les chantaient-ils ? On n'en sait rien. Et vous remarquerez que j'ai cité trois épîtres où on trouve beaucoup la doctrine de l'Assemblée. Des trois, dans laquelle est-il question des réunions d'Assemblée ? Encore fort peu. C'est dans la première épître aux Corinthiens. Sans doute la plus mauvaise, la plus mauvaise, on ne doit pas dire ça, mais enfin, une des assemblées auxquelles des épîtres sont adressées, qui est dans le plus mauvais état. Effectivement, c'est parce que c'était un peu la foire dans les réunions que l'apôtre est obligé, pour ainsi dire, de rentrer dans les détails. Et alors, c'est intéressant de lire dans le Nouveau Testament et d'essayer de trouver, chaque fois qu'il est question d'une réunion, qu'est-ce qu'on peut en glaner comme indication pratique. Eh bien, on verra d'abord qu'il n'y a quasiment rien de normatif, à part peut-être quelques points dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 14, et encore fort peu, puisque ces points, ce sont plutôt des principes, du genre « Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix », « Que tout se fasse pour l'édification », « Que tout se fasse dans l'amour ». Vous voyez, ça c'est... Ça ne nous aide pas trop pour savoir s'il faut commencer par un cantique ou par une prière. Donc, il n'y a pas grand-chose qui nous est dit là-dessus. Vraiment très peu. Comme si l'Esprit-Saint disait, mais attendez, moi je vais vous donner des principes généraux, et puis, ensuite, ce sera à vous d'être guidé par le Saint-Esprit concernant la façon de faire en pratique, à hic et nunc, ici et maintenant, en fonction du lieu et du moment. Et donc on comprend que là-dessus, ce qui est malheureusement souvent un sujet de crispation, un sujet de tension, un sujet voire de discorde, les uns ne voulant rien changer, les autres voulant tout changer, eh bien le point principal n'est pas là. Pourquoi on est venu ce soir-là, ce soir ? Parce qu'il a été annoncé une réunion ? Pourquoi on vient à une réunion ? Est-ce que c'est pour rencontrer le Seigneur Jésus ? Nous avons vu le Seigneur. La première réunion, si l'on peut dire, après la croix, eh bien, c'est à Jean chapitre 20. Et que disent les 12, juste à la sortie de cette réunion, à Thomas qui n'était pas là, enfin les 12, ils étaient 10, hein. au moins 10, mais enfin, pas toujours facile de savoir combien il y en avait là. Mais ils étaient au moins 10. Jean 20, verset 25, « Nous avons vu le Seigneur ». Si on dit qu'on est réunis au nom du Seigneur Jésus, ça veut dire qu'on vient rencontrer notre Seigneur Jésus. On vient le voir. C'est cela qui fait le sens de notre réunion. Et de cela, tout découle. Et alors, on pourra essayer d'avoir toutes les formes qu'on veut, les formes les plus traditionnelles, les formes les plus modernes, les formes les plus cool, les formes les plus strictes, si on ne vient pas avec cet état d'esprit de cœur-là à la réunion, eh bien, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Alors, on comprend que de ce point de vue-là, les modalités pratiques, après, eh bien, ça devrait être une question secondaire, une question sur laquelle on doit avoir de la grâce, du support, de l'écoute les uns vis-à-vis des autres. Et puis, ça peut changer, ça peut s'adapter à différentes circonstances. Et puis, on voit que, personnellement, il me semble trouver dans la parole de Dieu beaucoup moins de dogmatisme que ce que nous en mettons. Par exemple, sur les réunions d'assemblée. Qu'est-ce qu'une réunion d'assemblée stricto sensu? Est-ce que c'en est une ce soir ou pas? Il y en a qui ont des avis très tranchés. Personnellement, j'ai un peu de peine à voir ça à travers la parole de Dieu, de façon aussi tranchée. Voilà. Donc là-dessus, les conditions morales sont le point principal pour ces réunions. Et alors, on peut avoir deux démarches concernant les réunions. On peut dire, voilà ce qu'on fait actuellement, ça c'est super, et on va essayer de justifier tout ce qu'on fait par un verset. Et là, on est très fort, et on peut le faire, et on peut le faire très facilement. Ou alors, on peut faire la démarche que je vous ai un peu suggérée rapidement, inverse, de dire, ben voilà, prenons la parole de Dieu, regardons ce qu'elle nous dit, et on verra effectivement qu'elle nous dit des choses, mais ce sont des principes moraux. Essentiellement, j'en ai cité quelques-uns à propos d'un Corinthiens 14, qui est effectivement le passage qui nous donne le plus de détails, et même encore qu'on puisse penser, et j'en suis, que ce qui nous est dit là est adapté à la situation d'un rassemblement qui, justement, a du mal en ce domaine. Sorte que, par exemple, le fait qu'il ait dit que deux ou trois prophètes parlent, il n'est pas dit seulement en plus, mais c'est une indication, si un jour quatre frères qui se lèvent, il ne faut pas en plus en faire un fromage, parce que c'est pas écrit, c'est écrit que deux ou trois. Si la condition de l'Assemblée le permet, eh bien, ce n'est pas, à mon avis, aller contre l'Écriture que de dire cela. Voilà. Donc, ces points-là. Et ce qui est intéressant, et ça, c'est le troisième point qu'on va toucher, c'est qu'il persévérait. Il persévérait dans tout cela. Et c'est un mot qu'on trouve deux fois dans notre texte, au verset 42 et au verset 46. Persévérance, la persévérance. Ah ! Alors ça, c'est un point sur lequel on a du mal. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un siècle où c'est tout et tout de suite. C'est le presse-bouton. On veut perdre le moins de temps possible. Si j'ai un ordinateur qui me ferme mes fichiers en 2 minutes, je vais en acheter un pour qu'il me les ferme en 5 secondes, parce que 2 minutes, c'est trop long. On est dans un siècle de l'immédiateté. Il faut qu'on ait tout de suite. Et ça s'oppose à cette persévérance dont il est question ici. Cette persévérance de ceux qui savent prendre du temps et amener les choses. Et pour autant, cette persévérance, c'est vraiment une vertu chrétienne fondamentale. Alors, par quoi se marque cette persévérance? Eh bien, en relation avec mon point précédent sur les réunions, eh bien, par le fait d'une assiduité. On connaît ce verset de l'Épître aux Hébreux. Les Hébreux, ils étaient en danger de glisser, et au chapitre 10 et au verset 25, l'auteur les exhorte à ne pas abandonner leur rassemblement de nous-mêmes, comme quelques-uns ont l'habitude de faire, mais nous exhortant l'un l'autre, et cela d'autant plus que vous voyez le jour approcher. Alors, est-ce qu'on persévère par son absentéisme ou par sa présence? Il faut savoir quel type de persévérance nous préférons. Eh bien voilà, on est encouragé à persévérer. Il persévérait. Et alors, il y a d'autres expressions qui, on le voit tous les jours, la nouvelle traduction dit jour après jour au verset 46, jour après jour. Peut-être qu'ils se réunissaient dans ce feu, ce premier élan, peut-être qu'ils se réunissaient tous les jours. Bah, on est frappé que dans des pays où sans doute les chrétiens ont un cœur beaucoup plus brûlant que le nôtre, eh bien, on trouve des réunions tous les jours. En Égypte, les quelques rapports missionnaires que l'on a, mais il y a des réunions tous les jours. Elles ne sont pas pour tout le monde, bien sûr, mais enfin, il y en a plus souvent. Et puis, mon père est allé en Roumanie, et là aussi, les réunions, il y en a beaucoup plus, elles durent plus longtemps, et ils persévèrent. Et que nous, oh là là, ouais, il ne faut pas qu'il soit trop long ce soir. Voilà. Est-ce qu'on persévère? Persévérance. Et cette persévérance, elle se montre aussi dans ce qu'on fait. On est frappé aussi qu'un des faits actuels, je ne sais pas si ça vous frappe, mais moi aussi, c'est qu'on commence quelque chose, alors là, hop, ah, ça va bien, tout le monde s'embarque, et puis, quand ça continue, au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, oula, on commence à se compter. Hein. Et on voit ça sur beaucoup de choses qui sont lancées, soit sur l'aspect de l'œuvre du Seigneur au sens large, missionnaire, enseignement, rédaction, choses comme ça, les troupes s'effilochent au fil du temps. On a de la peine à persévérer, beaucoup de peine à persévérer. Alors, là aussi, c'est un encouragement pour nous à persévérer. On a pu dire, et cet aphorisme est très juste, que la caractéristique d'une œuvre divine, c'est qu'elle va jusqu'à son achèvement. Et effectivement, quand Dieu fait quelque chose, il le mène jusqu'au bout. Et avec l'aide de Dieu, par sa grâce, nous pouvons aussi être de ceux qui persévèrent jusqu'au bout, comme le dit le Seigneur Jésus. Et alors, cette persévérance, elle est vraie pour les quatre aspects, mais j'insisterai sur le dernier aspect, sur la persévérance dans la prière. Parce que c'est un des aspects sur lequel il est le plus insisté, puisque au chapitre 6 et au verset 4, quand il est question d'établir les premiers diacres, que disent les apôtres ? Nous, nous persévérerons dans la prière. Persévérer dans la prière. Et puis, dans les épîtres, on retrouve des éléments qui sont extrêmement proches, puisque en Éphésiens 6, verset 18, quand il est parlé de cette septième arme, de l'armure complète de Dieu qu'est la prière, priant par toutes sortes de prières et de supplications en tout temps par l'Esprit, et veillant à cela avec toute persévérance, la persévérance. Et Colossiens 4, c'est un passage parallèle, je pense, Colossiens 4, verset 2 nous dit à peu près la même chose, persévérer dans la prière, veillant en elle avec des actions de grâce, priant en même temps pour nous aussi. Alors là, on se trouve tous jugés, parce que la réunion de prière, Anthony, c'est le jeudi soir, ici c'est le vendredi soir, ben souvent on se compte. Et puis, c'est la persévérance, on a de la peine. On a de la peine. La persévérance, l'assiduité de la réunion de prière, puis aussi la persévérance pour prier pour quelqu'un. Quand on pense à l'apôtre Paul qui avait cette, de Corinthiens 11, verset 28, qui avait cette sollicitude pour toutes les assemblées. Et quand il dit « je ne cesse pas de prier », ça ne voulait pas dire qu'à tout moment il priait, mais ça veut dire qu'il avait cette persévérance dans les sujets de prière. Tu dis, je ne cesse pas de rendre grâce à Dieu, ça voulait dire que, peut-être tous les jours, je ne sais pas, toutes les semaines, on ne sait pas comment était organisée sa vie de prière, mais il avait cette persévérance pour prier pour un sujet particulier. Et donc, ça nous encourage de voir cet exemple des premiers chrétiens dans leur persévérance.